vous est donné par le garage Balcon du Jura, votre agence Suzuki à Sainte-Croix.
Il est 19h sur Radio Carnaval. Et si vous commencez à manger à l'instant, nous vous souhaitons un joyeux appétit.
Bonsoir à toutes et tous, c'est la DER de l'émission La Vita est Bella en ce vendredi 13 février. Et avant d'entamer cette dernière émission, eh bien, je reparle des parrainages et puis je les salue, la laiterie fromagerie de Baume ainsi que le Daystock Factory Outlet à Orbe. On les remercie infiniment pour leur soutien. Ce soir, Sylvain, bonsoir.
Bonsoir, cher Sylvain, pour cette dernière.
Et oui, on a eu un plaisir extraordinaire avec tous nos invités de cette semaine. Depuis samedi, on a vraiment eu des gens magnifiques qui nous avaient plein de choses à dire, à nous raconter. On a fait vraiment un bon moment de partage dans cette émission de 19h à 20h. Et ce soir, on reçoit un vrai personnage.
Alors, c'est un vrai personnage, en effet. Alors, nous l'avons rencontré dans un lieu très particulier, où on y sent le bois, la colle, l'ambiance est musicale, des dessins accrochés au mur. Et dans le bureau, au fond de la salle, c'est Tintin qui nous fait un clin d'œil avec l'île noire, que nous découvrons avec admiration. Et tout à coup, nous sommes invités à rejoindre les entrailles de cet endroit. La table est une carte de la mer des Caraïbes. Et les très respectueux Jack Sparrow et Calico Jack Srakam, entre autres, nous accueillent. Pour ceux qui l'ont reconnu, il s'agit de Fabrice Compordu, alias Fab, qui est le maître des lieux et enseignant depuis 6 ans les travaux manuels aux enfants de 7 au 11e. Fabrice est un auteur atypique et un personnage haut en couleur à profil multiple. Voilà, salut Fab.
Bonsoir.
Bonsoir Fabrice.
Waouh. C'est très joli comme portrait.
Merci, bienvenue.
Ben, merci de m'avoir invité aussi.
On a vraiment le plaisir de clore notre série avec toi. C'était un petit peu, bien sûr, comme souvent, des rendez-vous qui se passent un peu à la one again, comme on aime bien le dire. Et puis vraiment, je dois reconnaître, c'était une très belle rencontre. Et puis, tu as vraiment un parcours qui est incroyable.
Ben, je sais pas.
Par quoi est-ce que tu aimerais commencer?
Par le début.
Allez, vas-y.
Ben, je sais pas, mon parcours.
Déjà professionnel.
Waouh.
Comment t'en es arrivé là, à te retrouver à Sainte-Croix?
J'ai juste apporté une toute petite modification dans ce que t'as dit. C'est pas 6, c'est 5. Mais
t'es dans la 6e cette année, non?
Ouais, mais entre les années civiles et puis scolaires, ça se mélange tout le temps. Comment je suis arrivé là? Écoute, à Sainte-Croix, je peux dire que c'est grâce au départ à la retraite d'un collègue qui est là, que j'ai croisé tout à l'heure. Après, dans l'enseignement, c'est un parcours tellement bizarre parce que j'ai eu des coups de chance, j'ai eu des opportunités. J'en ai raconté deux ou trois. Je ne vais quand même pas les dire à l'antenne parce que c'était un peu bizarre.
Elles sont indisables.
Ah, elles sont
inracontables.
Un petit peu chaudes.
Bon, alors, je les apprendrai tout à l'heure.
Donc, je trouve assez marrant parce qu'au fait, moi, dans toute ma vie, j'ai toujours fonctionné avec. C'est pas parce qu'on ne sait pas qu'on ne doit pas le faire. Et puis, c'est pas parce que. On nous dit que ça ne marchera pas, qu'on ne doit pas le faire. Puis au fait, ça amène à un certain rejet de ce qu'on me dit. Mm-hmm. Et je compte que sur moi, au fait. Donc, de là, ben, j'ouvre peut-être des portes, je les provoque. Mais je dis toujours, quand je suis entré dans l'enseignement, je suis allé à l'Uni. Et puis, je débarquais, il y a un gars... qui ne donne pas du tout envie de rentrer dans l'Uni. Et ce gars-là, il me dit, donc déjà physiquement, mais en plus son aspect, ouais, voilà, la personne, non. Et je pense même s'il il bossait comme éboueur, les poubelles lui feraient la gueule. Et enfin, bref, ce gars me dit, ah, mais vous savez, il commence à me faire un peu la morale. Il était plus jeune que moi, mais il commence à me faire un peu la morale. Ouais, vous savez... quand même rentrer à l'université, c'est pas donné à tout le monde. Je dis, ouais, mais il y a une grande porte, puis on peut y rentrer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il me donne des dossiers, des trucs. Puis au fait, il m'a tout de suite découragé. Dans ma petite tête, je me suis dit, comme on est très nombreux, on s'est vite causé, concerté, puis on s'est dit, mais tiens, il y a une grande porte. C'est comme une salle de spectacle, au fait. Il y a la grande porte où il y a tout le public qui rentre, et puis qui va s'asseoir, puis qui est très studieux. Jusqu'au moment où l'humoriste va dire des conneries. Si c'est une pièce de théâtre, ils sont tous très studieux. Et puis, il y a l'entrée des artistes. Alors, l'entrée des artistes, pour moi, elle a une signification énorme. Parce que dans toute ma vie, j'ai toujours adoré ce côté d'entrée des artistes, à tout point de vue. Et au fait, je me suis dit, mais de l'autre côté, il y a une petite porte. Et cette petite porte-là, je peux la franchir, je peux y accéder. Je ne me perds pas trop dans les couloirs. J'ai quand même un sens de l'orientation. et puis, du coup, c'est trop cool parce que je vais quand même arriver à ce que je veux faire. Et quand j'ai dit à un de mes amis, qui n'est plus un ami, j'ai dit je vais être enseignant, il s'est foutu de moi en disant « mais t'as jamais fait l'Uni ?» J'ai dit « mais je vais être enseignant ». Et puis, c'était une discussion que j'ai eue avec lui il y a 20 ans. Ça fait plus de 17 ans que je suis enseignant. J'ai fait l'HEP, j'ai tout fait, et puis j'ai mon diplôme, et puis voilà, je suis enseignant. Alors, peut-être atypique, je suis enseignant à ma façon. J'adore profiter de la vie. Je me réveille vivant, c'est trop cool. Parti de là, si je transmets ça aux élèves, je crois qu'ils s'éclatent aussi. Et puis voilà, donc mon autre parcours de vie... on n'a jamais le temps, une heure de tout dire.
Non, juste que tu as fait un apprentissage de ferblantier et puis après un apprentissage de couvreur quand même.
Ouais, puis je voulais enchaîner avec un apprentissage de charpentier si je pouvais le faire en 3 ans. Et puis ils m'ont dit, oulala, non, j'ai dit, mais j'ai 2 CFC dans ma poche. Ils m'ont dit, non, ça sera 4 ans. J'ai dit, tant pis, ça fait déjà 5 ans que je suis apprenti. je vais faire autre chose.
Faut quand même pas.
Je suis devenu patron.
En plus, ah là, t'as eu des employés, et puis, voilà. t'as rénové, ou bien t'as même carrément construit un, ou rénové un château.
Oui, alors j'ai fait toute la fermenterie d'un petit château. Château, je pense, si je me souviens bien, qui remontait aux années 1700. Mm-hmm. Château du Grand Saconnet, qui est connu, le Grand Saconnet, pour son aéroport, pour tout ce qui va par là-bas. Et puis, j'ai eu la chance de refaire toute la ferblanterie là-dessus. C'est une époque où je faisais aussi des bâtiments classés en ardoise naturelle et tout, mais c'est des choses que j'ai appris. J'ai eu la chance de connaître des vieux qui ont appris vraiment aussi avec des vieux, mm-hmm. qui ont pu me transmettre toute cette connaissance. Et puis, voilà, depuis là, je me suis toujours éclaté. Et quand j'en ai eu marre d'un truc, je suis parti, j'ai changé, j'ai fait autre chose. J'ai jamais eu de peur, de redouter le fait de fermer une porte, parce que ça me permettait d'en ouvrir d'autres.
Donc ça veut dire qu'à un moment donné, dans tout ce que tu as fait, tu as senti un petit peu le vent tourner, on pourrait dire ça comme ça, tu t'es senti moins investi, donc pour toi ça veut dire plutôt que de lâcher l'affaire, il y a peut-être quelque chose d'autre derrière qui va m'intéresser et je vais y aller.
Oui, on dit toujours chaque malheur, bonheur est bon. Ça me fait marrer parce que je regarde Sylvain parce qu'il vient de me dire juste avant l'émission que sa compagne s'appelle Sandra. Sandra, je te salue. Mon ex s'appelle Sandra. Puis quand elle s'est barrée, j'ai refait ma vie. Alors, ça c'est rien. Voilà, ça n'a rien à voir. Mais je trouvais marrant parce que je me suis dit, bah, tiens, elle avait décidé de changer ma vie sentimentale. Moi, grâce à ça, je vais changer toute ma vie. Et j'ai tout repris en main. J'ai fait ce que moi, je voulais. J'ai toujours fait ce que je voulais. Ma frangine me le reproche tout le temps. Elle me dit « Toi, tu fais tout le temps ce que tu veux. » Je dis « Bah ouais, mais depuis tout petit, en fait. » Parce que il y a une chanson que j'aime bien, c'est « Il est libre, Max. » Parce que, dans juste le refrain, hein, le reste. Parce que c'est vrai que je suis trop libre dans la tête, en fait. Mm-hmm. Alors, pour me catégoriser, on ne peut pas, parce que je saute du coq à l'âne. Ce qui est... C'est quand même balèze, hein, parce que être sur un coq pour sauter sur l'âne, mais bon, enfin bref, on va à part faire les proverbes, il y a des trucs, je sais pas, c'est très suspicieux. Et je trouve marrant parce que j'ai connu un mec, ce mec il s'appelle Fabrice, il est comme ça. Ben non, mon gars, parce que j'ai plusieurs personnes en fait. On est nombreux, très nombreux. Quand on se réunit, ça part en gabegie des fois. Puis presque tout le temps, ça part en gabegie.
Bon, l'important, c'est que de temps en temps, vous arriviez à vous mettre d'accord sur un sujet ou sur un chemin à prendre. Non, c'est compliqué ?
Non, on n'arrive pas.
Vous n'arrivez pas ?
On n'est jamais d'accord, c'est pour ça que je fais plein de choses en même temps.
Hier, j'ai fait ta connaissance hier et c'était vraiment un plaisir parce qu'on ne sait pas du tout. On a passé à peu près trois quarts d'heure ensemble et... à la fin de ces trois quarts d'heure, ben, t'es quelqu'un et un personnage qui laisse pas du tout indifférent.
C'est gentil.
On n'oublie pas. Et tu as tellement de facettes et de flèches à ton arc. Et tu m'as dit un truc que tu avais été sale gosse et que tu étais resté un sale gosse. Un sale gosse, moi, je l'ai interprété en t'entendant et en voyant ton atelier, ton bureau, et d'autres choses. On va peut-être parler un peu plus tard dans l'émission. Mais un sale gosse, mais pas le côté négatif du terme, mais un sale gosse amoureux de la vie.
Alors, je suis extrêmement amoureux de la vie. J'ai pas envie de me reposer, au fait. J'ai envie de faire plein de trucs. Je suis jeune. Je suis né le 29 février, donc je peux être que jeune. donc, au fait, je vieillis jamais. Et c'est trop génial parce que pour moi, la vie, c'est un énorme terrain de jeu. Mais alors, c'est très déstabilisant parce que je suis un sale gosse, mais il y a des fois, je suis un salado. Au fait, moi, ça me fait marrer. Je ris de tout. J'ai presque tendance, pour certaines choses, à me mettre de côté et à me dire « ça, je m'en fous un peu parce qu'il y a d'autres choses plus importantes ». Je procrastine beaucoup, au fait. Mais procrastine dans ce qui ne me plaît pas.
Alors ça va.
Ouais, alors comme il y a beaucoup de choses qui me plaisent, je procrastine dans ce qui ne me plaît pas. Alors c'est très drôle parce que on a cette impression que je suis un peu insaisissable et puis que je suis très je m'en foutiste. Oui, pour certaines choses. Mais en même temps, si on me commande, par exemple, dernièrement, là, on m'a demandé de faire un tableau pour un doyen qui est parti à la retraite. Et j'avais à peu près 2 mois et demi pour le faire. Bah, je l'ai fait dans la dernière semaine. Parce que si je n'ai pas cette pression avec moi, ce, entre guillemets, ce que les gens disent, un stress, ce qui me fait marrer parce que je ne suis pas stressé, mais si je n'ai pas ce truc où tu dis, moi, je n'ai plus le choix, il faut que je le fasse, je réfléchis beaucoup trop.
C'est l'échéance, en fait. Ouais. C'est l'échéance qui arrive. Il te faut une échéance pour,
ouais,
pour
y arriver. Oui, mais il faut qu'elle soit courte. Mm-hmm. Parce que mm-hmm. du coup, je fais le dessin, je le fais... Alors, c'était costaud, hein, je veux dire, faire une bécane, une, oh là là, c'était une galère. Mais parce que je suis allé loin, j'ai regardé des modèles sur Internet pour faire vraiment tous les détails. C'était de la folie. Mais je me suis marré parce que j'aurais pu le faire 2 mois avant, puis prendre mon temps, puis machin. Ben non. Et j'ai testé même des méthodes que je n'avais jamais testées sur une toile. Et ça donne génial. Et j'ai même accidentellement, si on veut, appris des trucs. Et la prochaine fois, j'aime vraiment encore moins m'embêter. Donc, j'attendrai les 3 derniers jours au lieu d'attendre la dernière semaine.
Et du coup, la création dans l'urgence, c'est le côté créatif de l'urgence, des fois ?
Oui, et c'est ce que j'aime parce que, du coup, il y a plein de choses qui sont instinctives. Et je ne galère pas. Mm-hmm. Si je dois vraiment réfléchir sur des choses, et des dessins, des trucs, je vais tellement pas être content que je vais chipoter sur des trucs. Puis au fait, il y a un moment... Ça ne va jamais me plaire. Que là, je ne réfléchis pas. Clac, clac, j'y vais. Et puis, mm-hmm. les gens trouvent que c'est chouette. Moi, je ne me juge pas. Pour moi, je fais des trucs, ce n'est pas terrible. Mais voilà. Ça me permet d'aller tout le temps plus en avant, de ne pas être content de moi. Quoi pas être. Ce n'est pas content. Pas être. Si je suis pas. Si je ne marque pas d'importance sur ce que je fais, que ça soit n'importe quoi. Hein. Je suis en train de faire une fresque murale avec des élèves. J'ai fait plein de trucs un peu dingues, bah, entre autres ma salle. Il y a tout le BD Club encore, tu connais pas ça, faut que tu viennes. Faut que vous veniez.
Tu parles de l'onomatopée ?
L'onomatopée, ouais, c'est un délire. C'est
depuis,
un local.
12 ans, non ?
Ouais, 12 ans.
On en a parlé hier.
C'est un truc de fou.
Passion magnifique.
Et à la base, au fait, je me suis dit, j'ai un grand local. Bon, c'est parti d'une... C'est un truc à expliquer sur place, quoi. Et ce local, j'ai tout fait avec mes petits doigts. Heureusement que j'en ai encore 10. et puis, je me suis dit, mais tiens, c'est grand. Là, je vais faire un bar, ça va être cool. Puis au fait, gentiment, au fur et à mesure que je l'aménageais, c'est devenu un BD Club. Et il n'y avait plus à l'époque de BD Club en Suisse romande. Donc du coup, c'est le seul et unique BD Club de Suisse romande.
Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es le fondateur de l'onomatopée à Yverdon depuis 12 ans.
Ah, je suis le grand gourou.
Le grand gourou.
Ah, le grand gourou. Je manipule le gourou, donc l'autre moi, et puis petit gourou. Donc on est déjà 3. Ouh là là.
Si vous voulez participer à la messe du grand gourou, ben allez à Yverdon, à l'onomatopée, vous allez vous faire plaisir.
Et c'est ouvert, je me fais un peu de pub, c'est ouvert tous les mercredis hors vacances scolaires, dès 16h30.
C'est au village...
Village 48.
Village 48, hein.
Et c'est trop génial, moi je m'éclate. Il y a un peu de tout, il y a des dessinateurs qui viennent, il y a des BD d'occasion à vendre. Puis l'onomatopée a une petite extension depuis 2016. C'est devenu l'onomatopée édition. Ce qui m'a permis de faire mes bouquins autant qu'à faire, autant commencer par moi. Voilà. Et puis là, j'ai édité pas mal d'autres trucs d'autres gens. Et je m'éclate aussi là-dedans comme un petit fou.
Ah, tu édites aussi d'autres écrivains. Ouais. Ok.
Alors, il y en a, c'est très drôle parce que. Il y en a, c'est un grand dessinateur de BD. Et puis, j'ai édité un tirage de tête, donc c'est un album de luxe. Mais à la base, bah, il devait y avoir que l'album normal de ses crayonnés que j'adore, plus une petite galerie de personnages. Puis comme ça tombait sur ses 50 ans de BD, bah, il a demandé à 2-3 amis dessinateurs de lui faire des dessins. Puis après, il s'est retrouvé une dizaine, puis une vingtaine. Puis on a fini à 90, donc ça fait 90 pages en plus. Donc voilà, c'est un super beau bouquin qu'on trouve pratiquement plus à part au BD Club.
Okay.
Il y en a encore quelques-uns. Voilà. je m'amuse, quoi. Donc je suis un sale gosse pour m'amuser.
Mais on sent que tu y prends un plaisir incroyable.
Et ouais, franchement, ouais, c'est trop cool, quoi. Moi, je trouve trop génial. J'ai effectivement plaisir de tout, sauf du dessin de mon papa. Ça m'a quand même, c'était un gros coup dégueulasse. Mais maintenant, j'ai plaisir de tout et j'en profite parce qu'effectivement, ça peut s'arrêter comme ça du jour au lendemain.
Si on peut faire le lien avec ton papa par rapport à ton départ dans l'écriture. Voilà, il y a une petite anecdote là derrière. Hein
ouais, alors.
Je te laisse en parler, Fab.
Ouais, ouais, c'est marrant. C'est une chose. Non, c'est pas marrant. Mais c'est une chose que j'ai découvert. Mon papa, alors, pour resituer un tout petit peu, je vais essayer de ne pas faire long. Il avait fait, à l'époque, il voulait être curé.
Merde. Sérieux ?
Oui, sérieux. Il voulait être curé, mais bon. Donc, il était à Estavayer-le-Lac, le nom va me revenir, à l'école de curé là-bas. Et bah, au bout de 2 ans, 3 ans, je suis tombé sur ses bulletins scolaires, mais c'était très bien dans les langues mortes. Puis, il y a un truc, il y a des mineurs qui nous écoutent.
Oui, derrière toi, il y en a 3.
Oh, bah, ouais, bon, ceux-là, je les connais, ils ne vont pas être étonnés. Mon papa a toujours dit, et puis ça je l'ai écrit dans un de mes bouquins, il y a un jour il s'est rendu compte que les voix des copines étaient beaucoup moins impénétrables que celles du Seigneur. Et du coup il a changé, il a trouvé sa voix.
Ah, c'est joli,
et il s'est barré de l'école. Et de là, bah, il est devenu fonctionnaire, il était chef de gare à la gare du Verdon. Et il a toujours eu cette passion pour la lecture, l'écriture. Et... Je suis désolé, Sylvain. Non.
Ça fait bien rire tes élèves, en tout cas.
Ouais, bah, je ne les vois pas, heureusement. Mais... Et donc, j'ai eu un père rock'n'roll. Je suis désolé. Ah bah, je suis désolé, oui. Les filles. Mais... Non, mon père, il était barjot. C'est pour ça que je suis tout à fait normal. Okay. Et donc, là, j'ai découvert, quand il est décédé, un cahier scolaire. Je ne sais pas où il l'avait piqué, mais ce n'est pas moi qui lui ai fourni, en tout cas, je vous promets. C'était de l'État de Genève. On ne sait pas où il l'a eu. Et puis, là-dedans, il avait écrit plein de textes. Et, en lisant, en découvrant ça, je me dis, tiens, c'est quoi l'écriture de papa? Tiens, je commence à lire. Puis, en fait, il s'adressait à un lecteur. Et ses textes étaient super beaux. Ben, j'ai amené le bouquin où je les ai remis dedans, d'ailleurs. En lisant ces textes, je me suis dit, mais c'est incroyable, il a vécu les mêmes malaises que moi à certains moments, avec ces jolis mots à lui. Moi, j'y ai mis de l'argot parce que j'adore cette partie du français d'argot des années après-guerre. Et ça n'a rien à voir avec l'argot des jeunes de maintenant, qui croyaient avoir inventé des trucs, mais qui nous ont tout piqué. Et je trouve marrant parce qu'en lisant ces textes, je me suis dit, mais il a eu des malaises, des mal-êtres, des situations catastrophiques avec pas mal de femmes. Je me suis rendu compte que moi aussi, ça reste entre nous, hein, les filles. Personne n'écoute. Hein. Non, non, vous dites rien. Hein.
Non.
Ah bon. Et puis du coup, je me suis dit, mais tiens, j'ai des textes comme ça qui traînent. J'ai les textes de mon papa, comme il s'adressait à un lectorat, il faut ces textes qu'on les regroupe. Mes filles ont refait des textes, ma moitié aussi, puis mon frangin aussi. Puis au fait, j'ai regroupé tous ces textes-là. Je les ai mis dans un bouquin. C'est ce qui m'a mis peut-être un peu le pied à l'étrier. J'ai pris goût à écrire des bouquins.
C'est fait, ouais. C'est juste.
Ouais, c'est une bonne mémoire. Hein.
Ça, en fait, c'est par rapport à... Tu m'as juste un petit peu... si je me souviens bien, tu as dit... Tu sais, on dit tout le temps... ah, ben ça, je vais le faire. Ah, mais ça, il faudrait que je fasse. Mm-hmm. Ah, ben ça aussi. Et puis, en fait, on ne fait jamais. C'est ça,
ouais,
enfin,
ouais.
En gros, c'est pour ça que tu l'as...
Oui, je l'appelle comme ça, parce que je connais plein de gens, vous en connaissez sûrement aussi,
mais moi,
qui disent, ah, je suis en train d'écrire un bouquin, c'est trop génial et tout. Ben, j'ai dit, moi, non seulement je l'ai écrit, je l'ai édité, ça, c'est fait. Puis, je trouvais marrant de l'appeler comme ça. Et sur la couve, il y a un portrait de mon papa. Il y a moi caricaturé, mais c'est trop drôle, j'aime bien me dessiner, avec un gros pif et tout. Voilà. Et puis, Pour les auditrices, je n'ai pas de gros nez.
C'est vrai, je confirme.
Je trouve marrant parce que mon papa n'avait pas de gros nez non plus, mais je l'ai dessiné, vous verrez le petit clin d'œil que j'ai fait. Et j'ai galéré pour faire ce dessin, mais j'ai galéré, j'ai tout essayé à ma planche à dessin, à la table de lumière, de reprendre sa photo, de la grandir, de faire un papier calque, de faire plein de trucs comme ça. Et au fait, j'y arrivais pas. Mais pas du tout, je l'ai mis en transparence sur ma toile pour essayer de le faire en crayon. J'arrivais pas du tout. Et puis, il y a une petite voix, mais pas mal de jours, de semaines après, petite voix interne qui m'a dit, mais t'es con ou bien, fais-le en direct. Alors, ça m'a surpris, parce que j'ai jamais fait un dessin en direct en prenant mes pinceaux, ma peinture, comme ça. Puis, clac. Puis j'ai attaqué, puis au fait, si je vous montre la photo, puis le portrait... Bah,
c'est parfait.
Wow. Donc, je pense que papa qui aimait le dessin aussi, qui dessinait aussi, m'a peut-être guidé à ce moment-là, j'en sais rien. Mais
ce qui était assez étonnant, c'est quand on s'est rencontrés hier, tu m'as dit aussi que tu ne savais pas que ton père écrivait. C'était une belle surprise. Et c'était une sorte aussi de souvenir, de continuité aussi, de garder le lien avec ton père d'une autre manière. Et c'était vraiment intéressant de t'entendre à ce sujet. Parce que c'était vraiment la belle surprise. Hein. Tu ne savais pas qu'il écrivait.
Ouais, je ne savais pas du tout. J'ai été... très ému, il a écrit un texte qui raconte la séparation de ma maman, avec ma maman. J'étais très, pas du tout choqué, mais très touché, effectivement, parce que la relation dans laquelle ils étaient, ça, ils ne l'exprimaient pas, au fait. Ouais. Et de le découvrir après, de dire, mais tiens, c'est comme quelqu'un qui dit jamais je t'aime, et puis il l'écrit. Et au fait, je me dis, mais c'est vachement beau, quoi.
Tu as retrouvé cette émotion sur le papier en lisant le texte de ton père, quoi.
Oui, mais c'est un côté de mon papa que je ne connaissais pas. Ouais. Moi, je connaissais le papa Louba Rock'n'Roll qui était bécane, et la totale, quoi. Et de découvrir mon papa sur ce côté sentimental, dans tous les textes, hein, je retrouvais des trucs. Je me dis, tiens, il a caché beaucoup de choses, comme moi, je les ai cachées aussi. Et je trouvais super, super émouvant. Je ne pouvais pas laisser ces textes toujours sombrer dans l'inconnu. Il fallait que je les sorte.
Merci pour ce beau témoignage.
Donc, c'est ce qui t'a permis de commencer l'écriture. Et ensuite, tu as poursuivi avec le hérisson. Hein.
Non, oh là là.
C'était...
Non, que j'ai fait après... J'ai fait ça, c'est un délire. Ça, c'est un délire. C'est vraiment... les Swiss Omens, c'est un délire. Au fait, les Pokémon, ils m'ont tellement énervé que je me suis dit, il faut que je fasse des Pokémon suisses. Puis c'est quoi des Pokémon suisses? Mais c'est débile, mais ça fait rire.
Alors bien sûr, je tombe sur le coucou suisse.
Mais ouais. Mais, puis quand tu lis les forces et puissances, c'est vraiment... C'est des stéréotypes suisses bien tournés à la Pokémon, c'est débile, mais ça m'a vraiment fait rire. Et puis, après ça, j'ai écrit un bouquin sur la Seconde Guerre mondiale.
Oui, une histoire d'amour.
Oui, une histoire d'amour dingue, mais dingue. Trash, mais dingue. Non, trash parce que tu m'as dit qu'il t'intéressait.
Oui, exactement, oui, tout à fait.
Trash parce que tu ne t'attends pas du tout à ce qui se passe, et c'est ce que j'aime, au fait. J'aime pas les trucs à la Stephen King où tu lis 300 pages et puis dans les 50 dernières t'as toute l'histoire. J'aime pas les histoires téléphonées, donc tu lis, tu dis ah je tourne encore 3 pages, il va se passer ça. Moi je vis d'une façon où je suis du signe du poisson, donc pour me choper c'est pas évident. Toi aussi?
Mais bien sûr.
Non.
Bon, alors écoutez les poissons, je vous dis une chose, vous calmez, hein, parce que vous avez un lion en face de vous. Alors attention. Hein.
Ah non.
Ça va faire schlac, schlac, schlac.
Pas encore.
Mais oui, encore une.
Mais
par
Sylvain,
contre, il y a une chose aussi. Hein, je suis désolée, mais on est pris par le timing. Donc, dans 5 secondes, il y a les pubs.
Et on est inchoppables, les poissons. À tout de suite.
Ouais.
Depuis 30 ans, l'entreprise Eric Rusticelli Menuiserie Charpente est à votre service. Nous sommes spécialisés dans la restauration de charpentes et la fabrication, pose de fenêtres, portes et meubles.
Nous vous offrons un large choix d'aménagement intérieur moderne. Un devis, un conseil, appelez-nous au 024 454 20 35. Retrouvez-nous sur notre site rusticelli.ch.
Pour les amateurs de viande sur ardoise, ou si vous préférez la bourguignonne, vous pouvez encore hésiter entre les croûtes au fromage ou celles aux champignons. Et si la viande de serre vous tente, pour faire votre choix et découvrir les autres surprises du menu, passez au Mont des Serres du mercredi au samedi de 11h à 22h et les dimanches de 11h à 16h.
Faites la fête et rentrez en toute sécurité avec Travis.
La ligne Yverdon-Sainte-Croix vous accompagne dans tous vos déplacements.
Notre personnel se tient également à votre disposition tous les jours à la gare de Sainte-Croix.
Parmi les services proposés, notre guichet s'occupe d'organiser vos voyages en Suisse et à l'étranger.
Vous pouvez également effectuer du change et déposer vos colis DHL.
Travis, transporte et connecte.
Ubuntu 13h, 16h avec Emiliano.
Samedi soir, à partir de minuit, au centre sportif, l'iconique duo de DJ Calumni vient mettre le feu.
Thank you.
ça fait du bien. On est de retour dans l'émission La Vita est Bella avec Fabrice Compondu, dit Fab, enseignant de travaux manuels à Sainte-Croix, avec mille facettes et cordes à son arc. Fab, on a bien compris au début, pendant qu'on causait pendant ce morceau, que ce morceau Hell's Bells de AC/DC était vraiment particulier pour toi.
Ah ouais, mais il est mythique. C'est marrant parce que, mis à part le fait que Back in Black, c'est l'album, le deuxième album le plus vendu au monde, ce que je trouve incroyable, moi quand il est sorti en 1980, oui, je suis né avant 1980. quand il est sorti, il y avait, à l'école où j'étais, il y avait ceux qui n'avaient rien compris qui se baladaient sous le bras avec le 33 tours de Kiss, et puis les autres qui se baladaient avec le 33 tours tout noir d'AC/DC, dont moi. Et j'ai mis ça sur ma platine, la chaîne IFI, comment on appelait ça. Et puis, je pose ça dessus et première note, une cloche, je dis c'est quoi cette connerie. Et puis après, la guitare qui rentre là-dedans, je dis ah. Puis après, j'ai waouh. Et j'ai trouvé incroyable la voix du chanteur. J'ai dit, enfin, ils ont un chanteur. Je suis désolé pour certains fans d'AC/DC, mais Bon Scott, je ne l'ai jamais aimé. Il a une voix trop féminine, trop aiguë, trop de fossé. Il y a un truc qui me dérangeait. Et Brian Johnson, waouh, j'ai dit, mais c'est une voix, c'est incroyable. Ils ont un chanteur de fou. Et depuis là, bah, j'ai été encore plus extrêmement fan que ça. Alors ça, c'était juste pour la sortie de l'album. Après, Hell's Bells, quand mon frangin est mort, sa compagne m'a demandé de m'occuper de toute la partie musicale. Et comme il était, comme moi, dingue d'AC/DC, un jour, on était dans la voiture à papa, on se baladait sur la côte espagnole, deux, trois petites choses à faire à Barcelone, et du AC/DC à quoi. Et il m'a dit, jour où je meurs, je veux en tout cas du AC/DC, puis Hell's Bells. Puis je lui ai dit, de toute façon, tu mourras après moi. Bon, il est mort avant moi. Et puis, donc sa compagne m'a dit, ouais, bah, tu, faut que t'écoutes, faut que tu t'occupes de la partie musicale, parce que, bah oui, AC/DC, mais lesquels. Alors je lui ai dit, bon, bah, c'est simple. On va faire en sorte, quand les portes s'ouvrent, il y aura les cloches, et puis quand donc on mettra Hell's Bells, et puis quand la guitare rentrera en action, et ben là les portes s'ouvriront, et puis on ira tous s'installer, et puis on écoutera ça religieusement. Et ça s'est passé, puis quand les portes sont ouvertes, j'ai chialé comme un con, parce que il y avait un truc qui était magique, quoi, qui était incroyable. Et après toute la partie musicale, il y avait que des chansons d'AC/DC. On a fini avec la chanson, mon anglais est tellement déplorable que j'ose pas le dire, mais c'est Viens boire un verre avec moi. Traduit en anglais,
c'est Come with me, drinker.
Ouais, on me, un truc comme ça.
Yes.
J'ai trouvé assez génial de finir avec ça. On a tous fini au bistrot, et puis c'était trop cool.
Ouais, très bel hommage. Voilà. Merci, Fabrice. Très bel hommage à ton frère.
Donc, c'est pour ça que je voulais.
Merci pour ce témoignage aussi, voilà. Plein d'émotions, on sent. Pour ceux qui ne te connaissent pas, nos auditrices et nos auditeurs, eh bien, juste en quelques mots, cheveux poivre et sel, jusque les épaules, moustache à l'amorce, t-shirt, des tatouages sur les bras. Et quand tu me dis que tu as un sale...
Je peux t'attendre. Ouais. Cheveux poivre et sel, c'est un menteur.
ils sont plus gris que ça?
Non, ils sont bruns clairs.
Brun clair.
Ouais, ouais, ils sont brun clair. C'est comme quand tu passes au rouge, tu passes au vert foncé. Alors, donc, là, ils sont brun clair.
Je vais me plaindre chez Visila, ça va pas du tout avec mes lunettes.
Ouais, voilà. Bon, cheveux longs. Oui, alors, comparé à toi.
Bon, on n'a pas le même coiffeur, ça c'est sûr. Visiblement, on n'a pas le même coiffeur.
Après, il y a eu l'histoire de Samson et Dalila. Alors, c'est un petit peu pareil. Et puis, après, tu as dit des tatouages. Non, c'est faux, c'est des taches de naissance. Après, je crois que c'est à peu près tout. Mal rasé, oui, bon, ça va. Avec un grille-pain, c'est pas mal. Je me suis pas mal débrouillé. Après le reste, t'as oublié beau, sexy, séduisant, et puis humble. Puis...
Mais j'écoute, j'ai pas pu le dire, c'est parce que tu m'as coupé, comment j'allais y venir.
Bon, voilà. les deux poissons, là.
Il ne lui manque qu'un chapeau tricorne pour le visage du corsaire. Ouais. Et je viens là-dessus parce que tu es un fan de la piraterie du corsaire. C'est aussi des sales gosses, les corsaires, les pirates. Puis j'ai découvert un endroit dans ton atelier au sous-sol, juste magnifique. Pourquoi la piraterie les pirates, Jack Sparrow, Rackham le Rouge, etc.
Écoute, c'est marrant, n'en déplaise à l'état de veau dont je suis le digne représentant, n'en déplaise à tous les patrons dont j'en ai fait partie à une époque, n'en déplaise à toutes les autorités que je respecte, tant bien que mal.
Parfois.
la piraterie, c'est pour moi la plus belle représentation de la liberté totale dans la vie. C'est-à-dire, ils recherchaient quoi ? Ben, de s'amuser, d'avoir des jolies filles, ça c'est autre chose. Des parenthèses dans leur vie. Comme le chantait si bien Soldat Louis, du rhum des femmes et de la bière nom de Dieu. Et je trouvais assez génial parce que c'était simple. Ils supportaient plus les autorités et tout ce qu'il y avait. Quand on regarde les autorités anglaises, françaises, avec Louis XIV et tout ce qu'il y avait autour, c'était quand même pas loin d'un système dictatorial. Du reste, tous ces systèmes-là, ils sont quand même tous pétés la tronche, parce que la royauté, elle n'a plus vraiment force et puissance à l'heure actuelle. C'est des représentants, mais ce n'est pas eux qui gouvernent. Donc il y a quand même eu un malaise. Ce malaise-là, c'est traduit par l'argent est là, on le prend. Quand on avait des galions espagnols chargés d'or volés en Amérique du Sud, en Amérique centrale, tout ça pour le roi d'Espagne, pourquoi pas se servir, c'est pas le leur. Et je trouve un juste retour des choses. C'est un peu comme Robin des Bois, au fait. Oui, je prends aux riches pour donner aux pauvres. Il y avait des justes partages qui se faisaient. Bartholomew Roberts qui a créé le code des pirates, dans le code des pirates il y a ce partage équitable et c'est des trucs de fou. Et puis ils avaient déjà les caisses futures caisses de retraite et caisses AI, ils avaient une caisse de pension où tout le monde cotisait et le gars qui était estropié d'après ses blessures touchait une certaine somme et tout, donc il y avait un truc de solidarité et d'humanisme qui était complètement dingue. Après oui, ce qu'on veut, c'est la liberté des mers et des océans, faut pas nous faire liège. Alors, c'est vachement drôle parce que ils ont un peu tout perdu, mais ils ont quand même bien mis le Bronx pendant pas mal d'années. Et moi, j'ai trouvé assez génial ce côté-là, vraiment de liberté. Vivre libre, comme Diego, chanté par, je préfère Johnny que Michel Berger, mais créé par Michel Berger. Dans cette chanson-là, il y a une recherche de liberté. Cette recherche de liberté, c'est quand même un peu mon cheval de bataille dans toute ma vie, au fait. Je m'en rends compte maintenant parce que tu me poses la question. C'est une autre analyse que je me fais.
C'est pas mal, ce soir.
Non, ça m'inquiète parce que j'ai un mois psy.
Oui, on dirait que ce soir une sorte de groupe de parole, mais c'est cool.
Ouais.
Ouais, c'est bien, je trouve, j'aime beaucoup.
Ouais, mais je suis surpris parce que j'ai un mois psy. Les psys, ils sont cinglés. Ouais. Ils sont plus fous que leur malade. J'ai un mois psy. Je suis très soucieux là, du coup. Je vais rentrer. On va discuter dans le train avec mon moi psy parce qu'il y a quelque chose qui joue pas. Mais
avant ça, Fab, je suis désolée. J'aimerais aussi revenir sur l'écriture. Je coupe. On reviendra peut-être sur la piraterie. Mais en fait, t'as aussi écrit des. T'as même pas fini sur le livre sur l'histoire d'amour. Le titre et tout. On m'a pas dit tout ça, non du tout.
Oui, il faut venir le prendre ici. C'est...
Oui, il y en a. Alors, effectivement, pour tous les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent, effectivement, Fab est venu avec des livres. Donc, si jamais vous avez le temps de passer ou l'envie et que vous n'êtes pas sous la cantine, nous sommes là.
Ah oui.
Donc, le titre
Celui sur la Seconde Guerre mondiale. Je ne veux pas dire de bêtises. La mort de l'amour, l'amour de la mort.
Ok.
Faut le lire pour comprendre le titre.
Oui, absolument.
Mais j'aime bien jouer sur les ambiguïtés de l'être humain, en fait. Quand il dit, mais c'est lui le coupable. Et puis, au fait, tu te rends compte que, non. Et, au fait, il y a toute une histoire de. quand il y a eu la Seconde Guerre mondiale, quand elle était finie après Nuremberg, il y a eu tout un programme posé par les Américains, par ce qui est devenu l'OTAN, de dénazification. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que à la base, il y a aussi eu une nazification. Donc, quand tu as des dirigeants qui sont complètement omnubilés puis qui mettent en pratique ce qu'un mec a écrit dans un bouquin, puis que le mec, il va pas dire non, c'est lui qui l'a écrit, et puis qu'il y en a qui doutent de ça, qui sont en dessous, et ben on fait tout ce qu'il faut pour que ça devienne des parfaits petits moutons au service du grand Dieu tout-puissant. Je trouve assez hallucinant parce que c'est des chapitres qui n'ont jamais été abordés dans les lectures que j'ai pu lire sur ces événements-là. Et à la base, mon héros, il est antimilitariste. Mm-hmm. Je fais une petite... un mini-spoil, mais c'est pas un spoil. Mais au fait, son père, il est mort à la bataille d'Arras en 1917. Mm-hmm. Et lui, il avait 4 ans et demi ou 5 ans. Et 4 ans et demi, ça fait erreur. Il a cette montée antimilitariste qui vient... Mais il n'a pas le choix, il est pris quand même dans les troupes allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors il arrive à louvoyer, à faire ce qu'il faut, puis à un moment, là il faut lire parce que c'est bien posé.
Tu m'as dit hier que tu avais fait des recherches importantes pour écrire ce livre et puis que tu étais aussi un passionné de cette période de Deuxième Guerre mondiale, comme beaucoup.
Ouais, alors j'ai mis une année et demie pour l'écrire parce que... Je suis effectivement très, très passionné de la Seconde Guerre mondiale. Tout ce qu'il y a eu en Normandie, je le connais. J'ai même certains objets de la Seconde Guerre mondiale qui sont historiques et puis peut-être recherchés. Moi, je les ai. Il y en a au club, il y en a un peu partout. Et c'est des trucs assez fous. J'ai même une veste du débarquement de Normandie qui a fait le débarquement à Omaha Beach, que j'ai trouvé dans les Ardennes belges. Elle est magnifique cette veste. Quand ma mère, elle m'a amené le carton, je l'ai sorti devant elle. Elle m'a dit, c'est quoi cette merde? On dirait un gars qui c'est une veste de clodo.
C'est de la sixième main.
Ouais, mais c'est un truc de clodo. Elle était alors je l'ai rapiécé un peu, je l'ai lavé à sec, j'ai fait des trucs de dingue. Mais je trouvais magique cette veste, elle est incroyable.
Elle a une histoire.
Ah ben ouais.
C'est clair.
Je trouve fou quoi, le mec qui l'avait sur le dos à Omaha, il est pas mort parce que cette veste elle a pas de trou. Non mais il est pas mort parce qu'en général ceux qui mouraient avec ça, ils étaient renvoyés dans leur boîte avec ça sur le dos. Et puis comme elle était dans les Ardennes belges, il y a la première, la 29e, qui a débarqué à Omaha. Et puis la première, elle est allée faire la bataille des Ardennes, et puis la 29e, elle a fait la bataille du Rhin. Et ce qui a fait que je la retrouve dans les Ardennes belges. Donc le gars a fini sa vie par là-bas, où il a laissé ses fringues, puis il s'est tiré à l'OLP, je sais pas. Mais je trouve drôle parce que moi je l'ai, elle est chez moi, et puis quand je la porte, j'ai quand même une petite émotion, un truc de fou. Quoi.
Ouais,
voilà, donc c'est genre de trucs m'ont poussé à écrire ce bouquin, puis j'avais envie de faire une histoire d'amour qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale.
Et puis si j'ose te poursuivre avec le premier polar que tu as écrit, en fait.
Oh, mais alors, là, je fais...
Entre deux, vas-y.
Entre deux.
Je te laisse.
Il y a deux bouquins entre deux.
Oui, vas-y.
J'ai écrit en même temps. Il y a les hérissons. Sylvaine, elle a l'air toute contente de parler des hérissons.
Un hérisson, ça pique. Voilà.
Alors, je trouvais super chou d'écrire un bouquin pour les gamins. En même temps, j'écrivais un autre bouquin que j'ai là, mais c'est pas à mettre en toutes les mains parce que c'est interdit aux moins de 18 ans, c'est pour personne extrêmement avertie. C'est un truc d'un cinglé, c'est un psychopathe sexuel. Ça s'appelle Mémoire d'un détraqué. C'est vraiment un truc de fou. Je sais pas pourquoi j'écris ce truc-là. Puis c'est le seul bouquin que ma mère a lu. Elle m'a dit, mais comment t'as pu écrire ça? J'ai dit, mais non, mais pourquoi t'as lu ce bouquin? Elle m'a dit, je viens de le recevoir. Je dis, mais pourquoi t'as lu ça? J'en ai écrit d'autres, faut surtout pas lire ce truc-là. Puis trop tard, elle l'a quand même lu jusqu'au bout. Hein. Donc ma maman, je sais pas, faut que je discute de ça avec elle. Parce que si c'est vraiment dégueulasse, elle aurait pas dû le lire jusqu'au bout. Donc moi, ça m'a fait ma psychothérapie d'écrire ce bouquin en même temps, en fait. Parce que d'un côté, j'avais ce truc de cinglé, j'avais envie d'écrire. Ça m'a fait penser à un bouquin de Serge Gainsbourg qui s'appelle Eugénie Sokolov. C'est le seul bouquin qu'il a écrit. C'est un peintre pétomane. Plus il pète, plus il peint. C'est du Gainsbourg. Quoi. C'est un truc de dingue. Et je me suis tellement marré en lisant ça. J'ai dit, mais un jour, je vais écrire mon bouquin de cinglé comme lui, il a écrit son bouquin de cinglé. Enfin, j'adore Gainsbourg. Puis, du coup, j'ai fait ce truc Mémoire d'un détraqué. Et, en même temps, donc, je faisais ce bouquin Un hérisson sapique qui sera en vente au centre Pro Natura dès le mois de mars. Et quand il rouvre, en fait, parce que là, il s'enferme sur l'hivernal. Donc, je trouve vachement mignon. C'est un truc, c'est tout tendre, c'est tout chou, quoi. Après, j'ai attaqué mon polar. Le premier polar que j'ai écrit. Pourquoi un polar? Parce que j'avais envie d'écrire un polar, simplement. J'ai toujours adoré les San Antonio. Je les ai tous. J'en ai un dans mon sac régulièrement. Là, je les relis parce que c'est pas pour me donner des idées. Mais j'adore ce commissaire. Alors, j'ai fait un petit clin d'œil dans l'autre polar que je suis en train d'écrire en ce moment. Petit clin d'œil parce qu'il y a une ouverture de porte qui doit se faire. Puis San Antonio, il a toujours ce qu'il appelle un sésame pour qui lui permet d'ouvrir toutes les portes. Donc c'est un petit clin d'œil pour lui. Mais le polar, j'avais déjà envie de le sortir le 11 novembre. Pourquoi? Parce que mon papa était né le 11 novembre. Et, au fait, je suis un grand sentimental.
Ah oui, tout d'un coup, là, on est en train de se rendre compte, effectivement.
Là, on a perdu 50% d'auditeurs. Et puis, écrire ce polar, je trouvais trop cool. En fait, c'est parti un petit peu, je pense que c'est une phrase que j'ai entendue, puis qui est restée au fond de moi, puis qui est un de mes mois qui me l'a ressorti comme ça pour me dire, tiens, en fait, il y avait ça, prends-toi ça en pleine dent. Puis, au fait, c'est une copine avec qui on était en Camargue qui a dit « Oh, mais moi, en tout cas, les livres, j'ai un ami qui est dans la broie, il écrit des polars, j'adore ça. » Puis, je sais pas, cette phrase, elle a dû rester au fond de moi. Puis, je me suis dit « Mais ouais, un polar, au fait, c'est cool, quoi. Pourquoi pas? J'ai plein d'idées. » Il s'appelle « La mort se fend la gueule ». J'adore parce qu'il est distribué partout en Suisse par Servidis. On le trouve à la librairie de l'étage à Yverdon. Et puis, quand j'ai mis le mot fin à ce bouquin, deux jours après, j'ai rallumé mon PC. Ma meuf débarque de mon bureau. Ça se dit pas, ma meuf?
Si, si.
Oui. Ma moitié.
Aussi.
Fait 1m50. À moitié. Alors, oui. Bon, je fais pas 3 mètres, mais. Alors, si on s'empile tous ceux qu'on est dans la tête, on doit arriver à 3 mètres. Donc, du coup, je lui dis. Donc, j'étais en train de retaper un truc. Puis elle m'a dit, mais tu fais quoi? Je dis, je récrée un autre bouquin. Elle m'a dit, mais attends, tu viens de m'imprimer les pages, je suis en train de les lire. J'ai pas encore fait la relecture. Je dis, ouais, mais mes personnages, je les aime trop. Je m'y suis attaché, je les adore. Donc, je ne peux pas les laisser comme ça. Donc, je suis à la page 106 actuellement.
Ah oui,
je vais bosser pendant les relâches à fond. J'en serai, je pense, à peu près à la 200. Ça s'appelle « La mort se met à genoux okay. ». J'ai déjà les deux autres titres avec les trames pour les Excellent. Deux autres polars qui suivront avec les mêmes personnages. Voilà. Il paraît qu'en lisant le commissaire, les gens se marrent. Ils disent « Ah, tiens, le commissaire, c'est toi ». Oh, ça, c'est toi qui peux dire ça, c'est tout à fait toi, ça te correspond et tout. Ce qui est marrant. Et voilà, donc l'amour des polars.
Fabrice, oui. Je suis obligée de.
Tu vas être méchante.
Ouais, je suis obligée. Par contre, on va écouter un dernier morceau de musique avant de se dire au revoir, mais est-ce qu'on a 30 secondes?
Moi, j'ai.
À peu près. Éventuellement, pour que tu parles de l'Écosse.
L'Écosse.
Quand même, c'est une petite partie de toi qui est quand même sympathique.
Non, l'Écosse, c'est le plus beau pays du monde. J'ai voyagé dans pas mal de pays et puis à la base, je fais partie de la confrérie des Amis du Malte, qui est un groupement de gens qui adorent le Malte. Donc le Malte écossais, c'est-à-dire le whisky, pure Malte ou single Malte. Et là, j'ai plein de marques en tête. Et ma moitié m'a payé un jour, elle me dit « Ah tiens, on va partir en voyage là pendant une semaine, quoi, 10 jours, presque 10 jours, ouais, on va partir. Je te dis pas où on va. » Puis après, elle m'a dit « Ouais, on va sur une île. » Je dis « Super, je prépare les tongs et tout, c'est génial. » Elle m'a dit « Non, écoute, on est en février, c'est mieux pas. » Puis elle était obligée de me dire « On va en Écosse. » J'ai dit « Bon, tant pis pour les tongs. » Et j'ai découvert un pays incroyable, avec une histoire incroyable, des gens incroyables, de la bouffe incroyable, une faune, flore incroyable, Et je suis vraiment tombé amoureux de ce pays à tel point qu'on a acheté un petit bout de terrain là-bas, puis je suis devenu lord.
Oui, il semble être
je trouve ça drôle, quoi. Lord, et puis ma meuf, elle est lady.
C'est
et on a acheté aussi un petit bout de terrain pour ma fille. Donc si on met les trois terrains ensemble, on a quand même à peu près 1000 mètres carrés.
Ah oui, quand même.
C'est super chouette, on peut y aller, mettre une tente de camping, on peut... puis dans un coin incroyable. Et l'Écosse, le jour où je vais bêtement casser ma pipe, comme on dit, donc sucer les racines de pissenlit, ce jour-là, je me ferai comme toute la famille brûlée, mes cendres elles seront dispersées à Glencoe, qui veut dire la vallée des larmes. C'est un coin magnifique, c'est incroyablement beau. Et je veux finir là-bas. Il y a deux, trois. Pour ceux qui connaissent Highlander, il y a un moment, il y a des batailles qui se passent à Glencoe. Ça a été tourné là-bas. Donc c'est super beau. Voilà.
Ok. Merci infiniment, Fabrice.
Ça fait plus que 30 secondes. Je suis désolé.
Non, mais ça, on le savait.
Mais écoute, c'était vraiment un plaisir de te recevoir. On a fait connaissance, en tout cas moi, avec un pirate au cœur tendre.
Absolument. Ah, c'est gentil.
Finalement, un pirate au cœur tendre. Et puis, faites bon accueil à son écriture. Allez à l'Onomatopée à Yverdon. Et puis, avant de nous quitter, on remercie la laiterie Fromagie de Baume, le Destock Factory Outlet à Aube, avant d'écouter la dernière chanson. Merci à Stan pour la technique.
Oui, merci Stan. Et puis, en fait, c'est Simon & Garfunkel. Est-ce que tu veux juste dire deux mots là-dessus, Fabrice, éventuellement?
Ouais, c'est une chanson que j'ai mise pour l'enterrement de mon papa.
Voilà.
Puis il m'a fait entre autres découvrir la rock'n'roll, mais aussi Simon & Garfunkel.
On va finir avec cette belle pensée. Bye bonne bye. Soirée à tous.
Merci.
Bye bye.
À l'année prochaine.
À bientôt.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, the halo of a street lamp. I turned my collar